RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Ouvrez vos volets et vous verrez, il y a moins 25 dehors et il neige. Tant pis, ben, retournez au lit dans ces cas-là, vous ne sortez pas, bon, restez au lit. Mais écoutez-moi quand même, hein. Bon, vous avez bien une petite radio là, sur votre table de nuit. Ben voilà. Hein. Ah, vous écoutez déjà? Ah ben oui, vous vous rappelez de l'heure, c'est bon ça, c'est bien. Bon, alors, on va commencer par Julos Bocarn. Vous savez, c'est ce Belge qui chantait, enfin qui chantait, oui, et qui récitait des poèmes aussi bien que Jacques Brel. Bon, ils étaient Belges, c'est peut-être pour ça qu'ils se ressemblaient peut-être. Hein. Une fois d'ailleurs. Oh non, ils se ressemblaient plusieurs fois. Alors, ils supprimeront les fusils à répétition. Voilà. Ils supprimeront les fusils à répétition et la lunette. Ils instaureront leur règne et la fête. Et toi, tu seras tout petit avec ton fusil cassé à tes pieds et tu mettras en joue ton ami avec l'amitié. Tu n'auras des coups de pied au cul du chagrin. Tu auras toute la vie devant toi pour dérouler la vie, comme un tapis volant. Mais moi, je serai comme un prêtre qui présente Dieu à Califourchon sur un ostensoir, dans l'encens avec du grégorien, derrière, chanté par des moines qui respirent ensemble, comme les amoureux au zénith de l'amour, et toi, mon tout petit. Mon frère, mon fils, tu regarderas le monde dans la féerie lumineuse du cœur. Voilà, Julos Bocarn. Voilà. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que les poètes sont morts qu'on va les oublier. Hein. D'ailleurs, j'espère que quand je serai mort, moi, il y aura un mec qui reprendra un petit peu tous mes poèmes et qui viendra réciter. Il s'appellera peut-être Julius Bocarn, ou je sais pas, ou mêliez-vous de ce qui vous regarde, peut-être, maintenant. Hein. Ben oui, on sait jamais. Hein. Ben, je veux pas dire le contraire, hein, parce que j'aime bien. Alors, là, par contre, c'est triste. Figurez-vous que j'ai un petit exemplaire incroyable sur la fameuse manifestation au métro Charonne, et où il y a eu 8 morts, hein, 8 morts pour une manifestation, et c'était une manifestation contre l'OAS, qui naturellement, l'OAS voulait à tout prix que l'Algérie reste française, parce que c'était pas les Algériens qui géraient l'OAS, c'était des Blancs, des Français, au final, hein, qui voulaient qu'on reste, que l'Algérie reste française, pour exploiter naturellement les richesses de l'Algérie et même le peuple. Voilà. Hein. Alors, il y a une grande manif. Alors, moi, je n'ai pas été à la manif. Par contre, j'étais à l'enterrement. C'était en 62. Je me souviens, j'habitais à Paris. J'étais imprimeur. Et figurez-vous que Jean Boussuge, que je ne connaissais pas, lui, était postier à Paris. Il était aussi à la manif. Je l'ai su que quand j'ai fait sa connaissance, quand je suis arrivé sur Périgueux, en 85. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et c'était en 62. On était dans la foule, mais il y avait 1 million de personnes. Comment voulez-vous reconnaître Jean Boussuge alors que je ne le connaissais pas, hein? Et lui, c'est pareil. Et moi, je n'avais pas la barbe à l'époque. Lui, il avait déjà la barbe. Hein? Mais bon. Alors, je vais vous lire un des poèmes qui a été écrit à la suite de ça. Hein? C'est triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien... la poésie, c'est pas que la rigolade. Hein? Métro Charnier, métro Charonne. Grandeur et France, deux mots, dont résonnaient les micros, deux mots vite et dérisoires, quand les bras qui se balancent en souvenir de victoire pointent tels des fers de lance, des crosses, des mousquetons, des matraques, des bâtons. Métro Charnier, métro Charonne, tache de sang sur les mains, que ni l'eau de la rivière, ni le ruisseau, ni la mer, ni le torrent au jasmin ne pourront plus effacer. Métro Charnier, métro Charonne, tache de sang sur les mains, que ni les fleurs de printemps, ni les fumées de l'automne, ni l'hiver aux bruits glacés, ni la pluie, ni le grand vent ne pourront plus effacer. Métro Charonne, métro Charonne, métro Charnier. Pas un mot, pas un regret. Oh, l'insulte des valets, grandeur et France entassées sur l'escalier du métro, sous les plaintes des blessés et des râles des héros, des insultes des laquais, et le monarque se tait. Alors le monarque, à l'époque, c'était De Gaulle, hein. Métro Charnier, métro Charonne, Taches de sang sur les mains, ni de l'eau de la rivière, ni le ruisseau, ni la mer, ni le torrent jasmin ne pourront les effacer. Métro Charnier, métro Charonne. Taches de sang sur les mains, ni les fleurs du printemps, ni les fumées d'automne, ni l'hiver vivacé. Bon, ça, c'est des répétitions. On appelle ça des refrains. Hein. Bon, alors je le passe, le refrain, parce que moi, je ne le chante pas. Hein. D'abord, je ne sais pas chanter. Sinon, si je savais chanter, je ne serais pas là. Je serais à l'Olympia, ou rue de la Gaîté. Hein, je serais peut-être à Hollywood, pourquoi pas. Hein. Qui répond pour les martyrs, le peuple au long souvenir, qui a fait venir la mort au carrefour des douleurs, qui a donné son accord, qui répond pour les tueurs. Elle est morte, la légende. Qui commande? Qui commande? Hein. Pour plus effacer, voilà. Alors, une petite histoire, c'est que le métro parisien avait fermé les portes à cet endroit-là, justement, à la station de métro Charonne. Hein. Et c'est ce qui a fait que les gens se sont précipités, croyant qu'ils allaient pouvoir se sauver dans le métro. Ils sont restés bloqués. Il y a plein de gens qui sont arrivés, et puis les flics ont tapé. Et c'est là, dans l'escalier du métro, qui était fermé avec des grilles, c'est là qu'il y a eu les 8 morts, pratiquement. Et puis il y a eu plus que ça, il y a eu énormément de blessés. Alors, bon, c'est bien de le rappeler, parce que vous avez vu que la France, c'est pas tout rose. Hein. Bon, hein. Il n'y a pas que des roses en France. Il y a aussi des chardons, des orties. Alors, voilà. Alors, on pourrait peut-être... Tiens, il y a Dutron qui m'a dit comme ça. Il est 9h30, Paris s'éveille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine, la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette, on tranche de l'art. Paris by night regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je veux me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
Voilà, bon, vous pouvez vous réveiller maintenant, hein. C'est bon, vous allez m'écouter. Hein. Remarquez, à Paris, ils peuvent nous écouter, mais seulement par le site RLP, hein, pas par la voix des ondes, non, non. Ça viendra un jour, vous inquiétez pas. Vous savez que RLP va installer un satellite pour qu'on soit écouté dans le monde entier ? Ouais, ouais, ouais. Et alors, ça sera payé par la mairie de Chamiers. Je vous dis pas les impôts locaux, comment ils vont augmenter. Hein. Oh, incroyable ! Oh là là, j'en reviens pas. Ça va que j'habite pas Chamiers, mais j'habite à Razac. Et Razac a décidé, lui, de ne pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas de radio là-bas. Et je pourrais peut-être en créer un. Non, non, je suis tellement bien à RLP, donc je vais pas aller foutre mon pognon dans une autre radio. Hein. Mon pognon, c'est pas grave, c'est juste ma cotisation. Hein. Bon, c'est pas grand-chose. Alors, j'ai un livre qui a été écrit en 1963. Putain, c'est l'année où j'ai connu ma femme. En 1963, j'avais 18 ans, elle en avait 28. Incroyable. Et elle m'a offert 50 ans de vie merveilleuse avant de casser sa pipe. Ouais, non, fumez pas la pipe. Pas, je crois pas. Je pense que non, non. Ou alors je le voyais pas. Bon, allez, Maurice, calme-toi, s'il te plaît. Alors, figurez-vous que c'est une association culturelle des membres de la Légion d'honneur, des Palmes académiques et des Arts et Lettres. Et ils ont fait un petit fascicule avec des poèmes, qui ont été certainement le Grand Prix du sonnet 1963. Donc c'est des sonnets. Hein. Alors, mais ils ne sonnaient pas à chaque porte. Hein. Non, non. Et là, il y a un monsieur Pascal Taded, d'Aix-les-Bains, qui a écrit Le songe de Ramsès. Vous savez Ramsès, vous savez qui c'est, hein. Je crois qu'il était né en Égypte, ouais, il me semble. Mais on ne sait pas lequel c'est, si c'est le 2, le 3, le 4, le 25, le 30, le 46 et le 25. Non, on ne sait pas quel Ramsès, il ne le dit pas. Bon, c'est certainement le premier. Ils n'ont pas mis Ramsès 1 parce qu'ils ont cru qu'il n'y en aurait pas d'autres, c'est pour ça, certainement. Enfeluque, d'ébène, à grêle voile d'or, des rameurs nubiens scandent leur cantinelle. Et la blême clarté de l'astre des phalènes d'or, immobile et jaune au fronton de Luxor. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on était en Égypte. Bienheureux nautonniers, alors je ne sais pas ce que c'est ça, hein, pour qui vivent encore les légendes du fleuve au bachique Silène, que le consul chanta comme les rois d'Hélène, ou de l'Ouadi Alpha jusqu'au temple d'Hathor. Aux fluides tombeaux, aux calmes eaux serviles, les obélisques longs d'énigmatiques villes ornent une Atlantide où sommeille Philae. Ça devait être une princesse, une déesse, certainement. Mais dans l'ocre hypogée où luisent les lampyres, le grand Ramsès a vu, sur le soleil ailé, l'Uranus flamboyé au seuil des deux empires. Voilà. Bon, alors les enfants, hein, vous retenez bien, parce que c'est de l'histoire, alors pas de l'histoire de France, mais c'est de l'histoire mondiale. Hein, parce que moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, on apprenait l'histoire mondiale, et la première année, la deuxième année, l'histoire de France. Hein, et en géographie, pareil. On apprenait la géographie mondiale, et la deuxième année, la géographie de la France. Il fallait savoir tous les fleuves, les préfectures, les sous-préfectures, les conseils généraux. Non, ça n'existait pas à l'époque. Ben voilà, bon. Si vous voulez, là, c'est bientôt les vacances scolaires. Je vous choisirai des poèmes pour continuer à étudier, par exemple. Hein. Alors, de l'histoire de France, de la littérature. Hein. Bon, ça sera bien pour vous, ça. Hein. Comme ça, ça sera une révision. Hein. Alors, tiens, si on passait Carmina Burana. Waouh, ça déménage.
Bacche, bene venies, gratus et optatus, per quem noster animus fit laetificatus.
Sculpinum corum vinum vinum generosum, et in virum curiae corum animosum.
Hei, sunt basa regia, quibus foliatur Jerusalem, et regalis Babylon ditatus.
Sculpinum corum vinum vinum generosum, et in virum curiae.
La petite histoire de Carmina Burana. Cette version que vous venez d'entendre, naturellement, elle dure presque une heure, c'est des morceaux. Ce sont des moines défroqués du Moyen-Âge. Donc défroqués, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la religion, ils sont devenus des simples civils, on va dire. Ils ont fait la fête. Hein. Ça a été enregistré, donc à l'époque, mais enfin, bien sûr, pas au micro, sur des partitions, hein, écrites sur des partitions, par ces moines, et apparemment, comme il y a des voix de femmes, il me semblerait qu'il y avait des religieuses aussi défroquées. Mais ne dites pas que je dis une bêtise, là, attention. Hein. Bon. Simplement, ils ont enlevé les habits des curés, quoi, des curés et puis des bonnes sœurs, c'est tout. Hein. Après, ils ont pris des habits civils. Vous n'allez pas croire que c'était une orgie. Non, il n'y avait pas d'orgie. Hein. Bon, à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Et en 1930, un certain compositeur qui s'appelait Karl Hoff a repris l'ensemble, mais dans sa version à lui. Et c'est encore plus beau, d'ailleurs. Mais ce que je critique de Karl Hoff, c'était un copain à Hitler. Ça fout tout en l'air, c'est comme ça. Hein. Donc ça, je vous le dis, mais bon, essayez de ne plus le retenir, parce que sinon, vous n'allez pas vouloir écouter quand je vais vous repasser la version. La deuxième version, celle de 1930. Hein. Voilà. J'aime bien vous raconter un peu les histoires comme ça de la musique, quand j'ai l'information. Hein. Mais là, je me suis penché un peu là-dessus, parce que j'ai les deux CD. J'ai l'ancienne version du Moyen-Âge, qui a été naturellement interprétée il y a peut-être 10 ou 20 ans ou 30 ans. Et là, ils l'ont enregistrée, là, bien sûr. Hein. Et puis la version de Karl Hoff aussi, qui ne devait pas exister sur, à l'époque, en 1930... Hein, c'était aussi des partitions. Hein, voilà. Bon, là-dessus, j'ai un livre qui s'appelle L'affaire Rimbaud. Et ça a été édité par la Société des Beaux-Arts du Périgord. Alors, on retrouve des grands noms, hein, des grands noms du Périgord. Hein. Je vais vous les lire quelques-uns, là. Vous allez voir. Enfin, vous allez voir, non, vous allez m'écouter. Attendez, où est-ce qu'ils ont mis la liste des gens, hein. Alors, par exemple, Jean Pauverdier. Je vous ai... la semaine dernière, je vous ai lu un poème de Léo Ferré et on a eu une version en occitan de ce poème, mais en chanson, souvenez-vous. Ensuite, alors Pierre Van der Pot, je ne connais pas. Bon, je ne connais pas tous les Périgourdins. Hein. Ensuite, alors Paul Placet, connu Paul Placet. C'était un copain de comment il s'appelle oh, bon, je vous le dirai la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai vu plus placé Pierre Orma. D'ailleurs, c'est celui-là que je vais vous lire. Alors, Pierre Orma était le directeur d'une association de théâtre qui s'appelait La Vache Cruelle Et c'était, il avait, enfin, je veux dire, il avait comme comme lieu pour ben, comment je pourrais dire, pour créer ces pièces d'acteur, quoi. Il avait le lieu, c'est le Palace, rue Bodin, qui existe toujours, mais qui restait comme un théâtre aussi. Hein. Alors, il y avait aussi Jean-Jacques Novier. Jean-Jacques Novier, c'est un poète. Je l'ai rencontré il n'y a pas encore très longtemps encore, mais apparemment, il n'écrit plus. Il est vieux, hein, il a plus de 80 ans. Gérard Martin, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Daniel Laumont. Vous savez, ce fameux conteur, il compte aussi, non seulement il compte, mais enfin, il a créé des contes aussi. Hein. Xavier Darcos, figurez-vous. José Correa, d'ailleurs, c'est lui qui a fait les dessins. Hein. Vous le connaissez, José. Alors là, il y a une citation de Serge Gainsbourg. Bon, mais ça, ce n'est pas lui qui l'a écrite pour le bouquin. C'est quelqu'un qui a été cherché. Alors la citation, c'est « Peut-être ai-je une sale gueule ? Peut-être pas. Ainsi en décideront les lumières crépusculaires, les couleurs, les noirs, les blancs et la focale qui puissent. » Bon, je ne vois pas ce qu'il y a un rapport avec... Hein. André Champeau. André Champeau, c'était un journaliste. Voilà. Oh, maintenant, il est à la retraite depuis pas mal de temps. Hein. Je crois qu'il était à l'Écho. En fait. Alors, qui c'est qu'il y avait encore ? Ah, Jean-Max Bruat. Alors, Jean-Max Bruat, c'était aussi quelqu'un qui écrivait, mais qui s'occupait d'expositions, qui avait créé plusieurs événements culturels. Alain Bressy. Alors, le fameux blaireau, vous savez, celui qui racontait des histoires et qui foutait un peu la justice en dérision. Hein, ben, il est encore, il fait encore des spectacles, hein, d'ailleurs. Il est toujours accompagné de son ami Marc Pajot. Alors, Ali Boredem, en fait, c'est un pseudo. C'est, comment il s'appelle ? C'est, l'ancien chef de cabinet de Darcos. Merde, je ne sais plus son nom. Bon, c'est pas grave. Bon, après, des mecs comme Robert Desnos, ce n'est pas des gars qu'on connaît, voilà. Hein. Jean Bonnefond. Bon, tout le monde le connaît, Jean Bonnefond. Hein. Vous voyez ? Après, Michel Brand. Michel Brand, c'est un artiste... qui fait des sculptures. François Augéras. Ah bon, alors voilà. Hein. Alors Placet, je parlais de Placet, voilà, c'était un copain à Géras. Et ce bouquin est fantastique parce que comment ? C'est local. Alors vous voyez, même, on n'a pas besoin d'aller à Charleville-Mézières pour faire des bouquins sur Rimbaud, hein, vous voyez ? Alors, bon, je vais vous lire celui d'Orma. Hein. Ben, c'est normal que je vous fasse voir un petit peu. Il y en a d'autres. Bruage, vous le direz aussi. Parce que c'est bien écrit. Hein. C'est joli. Hein. Alors, où est-ce qu'il est, Orma ? Orma. Orma, t'es où, Orma ? Coria, bon, là, il est plus loin. Ouais. Je vous lirai celui de Xavier Darcos aussi. Alors, voilà. Alors, pauvre Rimbaud, je te pardonne. Polyambiste, unijambiste. Oh, trafiquant ceinturé d'or, marchand d'armes noires et de rêves. Je, blanc de tes yeux, vague, ne turlupine plus personne, on te débite en Gallimard. Ben oui, parce que Gallimard, c'est un éditeur, au niveau national. Naturellement, alors est-ce qu'il a les droits ou pas, on ne sait pas. Hein. Morceau choisi et course avant. On t'auréole la dégaine d'un point rosé sur ton rouge pourpre. Seul, tu hurles et versatile. Versificateur qui te laisse embaumer des puanteurs cruelles, de la bonne pensée et du savoir imbu. Fleuve impassible, noyé dans la flash définitive, je te pardonne et je te le dis. Vous voyez, hein ? Alors bon, Rimbaud, il n'a pas entendu tout ça, lui, hein ? Non, et je crois qu'il n'entendra jamais, alors. C'est pas possible. Mais je vous lirai les autres parce que c'est intéressant quand même comme démarche, hein, je trouve. Alors, oh, il y a longtemps que je ne vous avais pas passé un petit Victor Hugo. Hein. Alors, il a écrit sur ses enfants, beaucoup, et puis naturellement, il a écrit sur sa fille qui s'est noyée, à cause du beau-père de sa fille, d'ailleurs. Hein. Il l'avait emmené en bateau à voile pour aller d'un endroit à un autre. Il s'en servait un peu comme un moyen de transport, en fait. Et puis, d'un seul coup, il y a eu une tempête, hein, ou un orage. et ils ont coulé tous les trois. Et le mari de sa fille, c'était aussi un poète. Je ne me souviens plus du nom, mais je tâcherai de vous retrouver ça. Alors, Jeanne était au pain sec. Hein ? Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir. Pour un crime quelconque et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaitude et lui glissais dans l'ombre un pot de confiture, contraire aux lois, tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société, s'indignèrent. Et Jeanne a dit d'une voix douce, « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce. Je ne ferai plus griffer, me faire griffer par le minet. » Mais on s'est écrié, « Cette enfant vous connaît. Elle sait à quel point vous faites faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible à chaque instant. L'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se défend. Plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. » Et j'ai baissé la tête. J'ai dit, je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort, oui. Mais c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on s'en mette au pain sec. Vous ne méritez, certes. Il vous y mettra. Jeanne, alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant les yeux si beaux d'avoir, plein de l'autorité des douces créatures. Eh bien, moi, je tirai portée des confitures. Voilà. Ce fut écrit le 21 octobre 1876. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais il est toujours d'actualité. Bon, ça pourrait arriver à ma petite-fille, à mon petit-fils, ça. Pain sec. Bah oui, pain sec, oui. Bah. D'ailleurs, pain sec, c'était, je crois, à un moment donné, un ministre. Mais de notre époque. Alors, il paraît que mon émission se termine. Et c'en est bien dommage. Parce que, vous savez, je voulais faire un 24 heures non-stop. Et la direction me l'a interdit. Vous vous rendez compte ? 24 heures avec vous ? Juste un petit sandwich à midi, puis un petit verre d'eau, hein, et tout le restant, que manger de la poésie, avaler de la poésie, de la belle poésie. Vous avez entendu, vous avez vu, j'ai même pas lu un seul de mes poèmes aujourd'hui. C'est rare, hein, c'est rare. Mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas. J'en ai sous le coude. Enfin, pas maintenant. Allez, je vous aime et je vous dis à bientôt.